la création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Aire-et-Dax et de Bayonne. Homme et animal, quel lien ? Point d'interrogation. Voici l'intervention de Marie-Thérèse Ourcastanier, professeure de philosophie et d'anthropologie.
Je remercie le père Hino et l'équipe d'enseignants de m'avoir permis aujourd'hui de faire une intervention philosophique. Vous allez voir, en grande partie très, très éloignée de l'esprit de Laudato Si. Et justement, pourtant, moi, je suis partie de ce leitmotiv de tout est lié que nous retrouvons dans Laudato aussi à de multiples reprises. Et je me suis dit, avec une certaine naïveté, ça serait intéressant de voir ce que disent les courants de pensée. Entre guillemets, welfariste, c'est-à-dire les courants de pensée qui défendent le bien-être animal. Et donc, je me suis intéressée à ces courants de pensée, dont certains étaient tout à fait nouveaux pour moi et peut-être le seront-ils pour vous. Et ces courants de pensée qui s'appuient sur la philosophie, une certaine philosophie, bien entendu, ne sont pas sans poser de sérieux problèmes et d'interroger notre conscience de chrétien. Bon, c'est cela que je voudrais réfléchir avec vous. Hein. Alors, dans mon plan, il y a donc trois grandes parties. Une première partie qui essaye de situer les courants anciens de pensée qui ont conduit à la situation contemporaine ou qui donnent des idées, hein, des concepts sur lesquels les penseurs du mouvement welfariste du bien-être animal s'appuient ou qu'au contraire ils veulent absolument contredire. Bon, j'irai assez vite sur cette première partie. Elle est un peu technique, mais elle n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de préciser en deuxième partie ce que on entend par l'antispécisme. Il n'est pas sûr que le terme nous soit très familier. Je vais le définir. Ce sera important d'en voir la définition et de voir les courants un peu surprenants de pensée qui nous disent comment nous comporter avec les animaux, nous humains. Et dans la troisième partie, inspiré, je l'espère, par Laudato Si, je ferai quelques points de critique de l'antispécisme. D'ailleurs, c'est vrai que le livre qui m'a le plus aidé dans toute la bibliographie très abondante que j'ai donnée, c'est le livre d'Ariane Nicolas, L'imposture antispéciste. Hein. Donc déjà, le titre est critique et j'emboîterai le pas à cette journaliste, écrivain, dans ma considération de ces mouvements de pensée. Je voudrais le dire d'emblée, hein, dans l'introduction, je crois que ces mouvements de pensée que, techniquement, si vous voulez, conceptuellement, nous ne connaissons pas très bien, sont des mouvements de pensée que nous rencontrons et que nous allons rencontrer de plus en plus. Bien sûr, par un des aspects pratiques, si vous voulez, que tout le monde connaît, qui est dans tous les journaux, dans tous les médias, dans toute l'actualité, constamment, et qui est le véganisme. Hein, bon, ça c'est le point, si vous voulez, d'entrée de ces mouvements de pensée. Bon, alors... Le statut de l'animal, je commence ma première partie, sur laquelle j'irai un peu vite. Bon, il y a une exceptionnalité humaine traditionnelle dans la philosophie qui a trois sources sur lesquelles je n'insiste pas. La source biblique avec le récit de la création dans la Genèse, où l'on repère que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, invité à dominer la terre, à soumettre les animaux. Dans ces animaux, l'homme ne trouve pas l'aide dont il a besoin, Genèse 2, 19, 20, et il faudra que l'homme soit à la fois homme et femme pour qu'il trouve cette aide dont il a besoin. Il y a la source grecque où l'éminente place est accordée à la raison. Toute notre civilisation repose sur cette valorisation de la raison qui nous vient des Grecs. Dans un dualisme strict chez Platon, soma sema, le corps est une sépulture, le corps c'est cet malheureux accompagnant de l'âme à laquelle l'âme est soumise et dont elle doit essayer de se libérer dès cette existence et heureusement dans la suivante. Donc, parce que l'âme est parcelle de la divinité, mais même chez Aristote, philosophe empiriste combien plus nuancé, si la continuité du vivant est assurée, l'homme se distingue par sa finalité. Sa finalité, c'est la contemplation rationnelle qui l'apparente au divin. Bon, certes, chez Aristote, la considération du corps et de la vie est tout à fait exceptionnelle, mais il y a quand même ce rationalisme. Et alors, troisième source, vous voyez, je vais très vite dans l'histoire de la philosophie, troisième source, on peut parler du tournant cartésien au XVIIe siècle, 1650 mort de Descartes, 1632 le discours de la méthode, où Descartes se donne comme projet de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Certes, en tant que croyant, il dit comme maître et possesseur, et il sera toujours dans la reconnaissance du Dieu créateur et du Dieu chrétien. Mais enfin, la postérité de Descartes oubliera cette référence, et retiendra au fond ce dualisme, d'une part un sujet humain souverain qui parle « je pense, donc je suis » s'expérimente comme libre, comme celui qui par lequel la vérité advient, hein. Celui qui par sa démarche fait advenir la vérité, et sa démarche est toujours libre, sujet individuel, hein. Et puis également, donc, cette découverte cartésienne de la matérialité du corps comme uniquement une réalité matérielle. Sa nature, dit-il, consiste en cela seul qu'il est une substance qui a de l'extension. Bon, voilà, donc, c'est la fameuse étendue cartésienne. Et. Descartes, que je cite encore dans le traité de l'homme, dit « le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre ». Et par conséquent, donc, Descartes déjà pense le vivant sur le modèle de la machine. Sur le modèle de la machine, et il prend cette comparaison caractéristique de son époque, assez fasciné par les automates, il compare le vivant à une montre. Le vivant, qu'est-ce que c'est ? C'est une montre qui marche. Et qu'est-ce que c'est que la mort ? Ben, c'est la montre qui ne marche plus, qui s'arrête. Mais si vous ouvrez la montre quand elle est quand elle marche ou quand elle est arrêtée, y a-t-il une différence ? Trouvez-vous un quelque chose de plus ? Ben non, non. Qu'est-ce que c'est que la vie? Ben, d'une certaine façon, la vie, c'est rien. Entre un homme qui vit et un homme qui meurt, ou un animal, hein, qui vit ou un animal mort, quelle différence? Ben, substantiellement, rien, si vous voulez. Rien. Donc, ça fera dire à Hans Jonas, au XXe siècle, qu'au fond, on a développé une ontologie de la mort. Le modèle du vivant, c'est l'inerte, c'est la mort. Hein. Car, qu'est-ce que c'est que la vie, encore une fois? C'est un fonctionnement, c'est un mécanisme. Bien. Alors, je passe au deuxième point. Les méfaits pratiques de l'anthropocentrisme, etc. De ce tournant cartésien résultent des effets paradoxaux. D'une part, la valorisation de l'individu, juge souverain de toute chose par sa seule raison, dans sa singularité, dans la décision de son libre arbitre, donc qui fait de lui un absolu échappant à toute loi hormis celle qu'il se donne à lui-même de façon universelle, et je suis passée de Descartes à Kant, 18e siècle. Alors il en résulte évidemment un anthropocentrisme évident, hein. L'homme et l'homme individuel, par sa raison et sa liberté, est le centre décisionnel de tout, hein, de tout. Et de notre côté, le cartésianisme va se prolonger, alors là, certainement Descartes n'aurait pas suivi, mais dans un matérialisme qui se développe au XVIIIe siècle, avec la maîtrise Diderot par exemple, et qui va se prolonger au XIXe siècle par ce matérialisme carrément athée, ce matérialisme qui commence à vouloir être une maîtrise du monde par l'industrie, par la science, l'industrie et la technique. Alors, cela, et vous voyez, je vais vite, hein, cela va conduire à une sorte de technicisme. Je voudrais en dire un petit mot avec Heidegger. Heidegger, au XXe siècle, fait une analyse tout à fait remarquable de la technique, pas une critique, hein, une analyse pour lui, mais nous, nous l'entendrons comme une critique, et il parle d'un arraisonnement de la nature, un arraisonnement, c'est-à-dire une espèce de soumission à la raison par l'homme et par sa volonté technique. Et notre rapport, dit Heidegger, à la nature est un rapport de provocation par laquelle elle est sommée d'ouvrir et de livrer tout ce qu'elle contient, afin que l'homme puisse l'exploiter à son profit. Selon ses besoins, ses projets qui n'ont pas de limite et supposent une nature qui y répondra infiniment, sans limite non plus. Provocation, exploitation, extraction. Hein. La nature, dit-il, est un entrepôt, dans ce point de vue, un entrepôt dans lequel on se sert suivant nos besoins et sans scrupules, sans mesure. Et par conséquent, le rapport de l'homme à la nature devient celui de la production de masse, de la consommation. Hannah Arendt dira de la dévoration. Bref, de la destruction. Et le vivant n'est pas même pris en considération dans ce champ d'exploitation qu'est la nature. Alors, je cite seulement cet exemple de Heidegger, cette phrase de Heidegger, parce que je la trouve vraiment éclairante. Parlant donc des créations techniques, il oppose la construction traditionnelle d'un pont qui unit les deux rives du fleuve et de la construction d'une centrale dans le Rhin. Il écrit « La centrale électrique n'est pas construite dans le courant du Rhin, comme le vieux pont de bois qui unit depuis des siècles une rive à l'autre. » Et voilà ce qui est important, c'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale, ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique. Il est de par l'essence de la centrale. Voilà, et je trouve ça très intéressant. car au fond, les choses n'ont plus le droit d'exister par elles-mêmes, ce qu'elles avaient dans la technique, disons, traditionnelle, dans l'artisanat et technique traditionnelle. Le fleuve reste le même, le pont ne le modifie pas, mais la technique moderne a une toute autre ambition. Elle recrée la réalité et elle la renomme. Ce qu'est le Rhin, il est par essence et par la volonté donc d'en faire un fournisseur de pression hydraulique. Donc, comme le dit le pape au paragraphe 115, la raison technique est placée au-dessus de la réalité et, fin de citation, et il y a l'ambition démiurgique de nommer les choses, que nous en soyons totalement les maîtres, les espèces de créateurs, d'emmurer les choses et les réalités dans nos projets. Alors, c'est la seule fois dans mon intervention que je citerai les exemples de traitement du vivant qui font donc le refus des protecteurs de la nature. Parce que, en effet, la façon dont on traite le vivant est tout à fait conforme à cet arraisonnement, à cette provocation, à cette mutilation de la réalité par des projets pharaoniques, un peu des projets de production de masse, de consommation, etc. Bon. Donc, mais bien sûr, je pense que sur la réalité, nous sommes d'accord. C'est pourquoi je n'insisterai pas sur elle. Mais enfin, dans le prolongement donc de Heidegger, les conditions de production de la viande industrielle, par exemple. Les poulets élevés en batterie subissent une opération de débécage. L'appareil qui tranche le bec des poussins endommage les voies nasales, crée des plaies purulentes souvent infectées. Ils grandissent dans des hangars violemment éclairés. Les porcs ont la queue tranchée. On leur meule les dents pour éviter les morsures. Les mâles sont castrés. Ils sont soustraits à leur mère après 3 ou 4 semaines au lieu de 3 ou 4 mois naturellement. Les bâtiments sont surpeuplés. 20% des cochons ne résistent pas à ces conditions de vie et meurent avant l'abattage, pourtant prévu 180 jours après leur naissance seulement. En pisciculture, le tableau est encore moins rose. Les poissons sont élevés dans des bassins bondés, souillés par leur déjection. Comme ils se blessent mutuellement à coups de nageoires, des antibiotiques sont saupoudrés sur l'eau afin que les plaies ne dégénèrent pas, etc., etc. Bon, voilà, j'arrête là. C'est en Philosophie Magazine que j'ai trouvé ces exemples dans un article qui s'appelle « Quand le carnivore se regarde en face ». Bon, voilà. Et bien sûr, ici, je pense que nous sommes tous dans le refus de telles conditions faites à l'animal et dans cet esprit qui préside à de telles pratiques. Alors, il est clair déjà que les mouvements de protection des animaux seront absolument contre ces techniques et derrière elles, contre la raison. Contre la raison, contre cette raison triomphante, contre l'esprit des Lumières, cette idée que la raison va, par un progrès indéfini, nous rendre maître de toute chose, cette idéologie de la philosophie des Lumières et de cette valorisation exclusive de la raison sont refusées. Par contre, c'est mon troisième point de la première partie, évidemment, le darwinisme va être le fond de pensée de ces mouvements parce que le darwinisme se débarrasse de ce qu'avait encore de vaguement religieux au XIXe siècle, peut-être la considération du vivant et de l'homme sur Terre. Et le darwinisme va substituer à une vision de la création, une vision bien sûr qu'il faudrait reprendre et comprendre, mais va substituer une vision d'une évolution dynamique sans transcendance, sans aucune transcendance, et malgré tout livré au hasard. Le darwinisme aussi va déconstruire, si je puis dire, le propre de l'homme, hein, en affirmant la continuité de l'homme par rapport à l'animal, continuité attestée par la similarité ou presque du génome, 98% du génome est commun à l'animal et à l'homme, du moins à certains animaux, et à l'homme. Est-ce que ça vaut pour preuve de quoi que ce soit, cette continuité ? Ça, c'est une question. Et puis, suivant le principe ancien du rasoir de Guillaume d'Ockham ou de ce qu'on appelle le canon de Morgan, eh bien, si on peut expliquer le supérieur par l'inférieur, il ne faut pas s'en priver. Il n'y a pas besoin d'introduire des principes nouveaux pour expliquer des processus vitaux, pour expliquer des comportements, si on peut les observer à des niveaux inférieurs de la vie et suivant des principes plus simples. Hein? Donc, il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité, disait Guillaume d'Ockham. Pour que ça soit bien compréhensible, si l'origine d'Homo sapiens est entièrement réductible à l'évolution d'une lignée de primates, le principe de la sélection naturelle exige que toutes les facultés, y compris l'intelligence, soient déjà présentes dans le règne animal. Aussi trouve-t-on chez Darwin lui-même la toute première déconstruction du propre de l'homme. C'est l'objet de La descendance de l'homme, paru en 1871. Je viens de citer Florence Ebel dans L'homme, un animal comme les autres, points d'interrogation. D'où donc le succès de la psychologie comparée, des neurosciences, qui toutes tentent de réduire l'originalité de l'homme en rabattant tout ce qui a constitué son propre sur ce que livre l'observation animale. Sensibilité, sentiments, intelligence, comportements moraux et politiques, rien de ce qui est humain n'est étranger à l'animal. L'homme n'est-il pas qu'un animal, juste un animal parmi d'autres ? Au lieu d'envisager comment le supérieur, c'est-à-dire par exemple la capacité à donner du sens symbolique, à parler, à entretenir des relations morales ou régies par des institutions, donc comment le supérieur informe, anime, transfigure les activités inférieures, parce que simplement corporel et vital, prenons justement l'exemple de manger, il s'agit au contraire de réduire ce supérieur à n'être que la suite des traces qu'en manifestent les comportements vitaux des animaux. Alors, en ce sens, ce darwinisme est, lui, repris par les mouvements de protection des animaux qui se soucient du bien-être animal. Alors, je passe tout de suite à la deuxième partie, l'antispécisme, la promotion de l'animal. Alors, je commence par un premier point qui est le véganisme comme mode de vie, où le véganisme se propose d'être un lien de respect intégral du vivant. Alors, vegan est un terme anglais qui contracte le terme de végétarien, inventé par un certain Donald Watson en 1944. Et ce Donald Watson, en 1944, crée la Vegan Society pour justement radicaliser le végétarisme, insuffisant à ses yeux pour défendre la cause animale. Alors, le végétarisme, tout le monde sait ce que c'est, mais il remonte à l'Antiquité. Ovide, 43 avant Jésus-Christ, 17 après Jésus-Christ, loue Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ, pour son végétarisme. Le végétarisme, il est dans la culture, même si effectivement il est marginal dans notre culture gréco-chrétienne, même s'il est resté peut-être marginal, il a quand même une existence très ancienne. Par contre, le véganisme, lui, est donc quelque chose de nouveau. Donald Watson, en 1944, donc écrit « Nous pouvons voir de façon assez évidente que notre civilisation actuelle est fondée sur l'exploitation des animaux, exactement comme les civilisations passées furent basées sur l'exploitation des esclaves. » Bon, comparaison extrêmement importante pour comprendre ce qu'est l'antispécisme. « Et nous croyons que la destinée spirituelle de l'homme est telle que viendra un temps où il éprouvera de l'horreur à la simple idée que ses prédécesseurs se nourrissaient de produits prélevés sur les cadavres des bêtes. » Bon, donc voici présenter l'origine du véganisme. Et qu'est-ce que c'est que le véganisme ? Alors, le véganisme est un mode de vie, pas un mode d'alimentation seulement, mais un mode de vie. Ça, c'est très important d'en être bien conscient. Alors, effectivement, c'est un mode de vie fait d'interdits alimentaires. Non seulement les animaux, mais tout ce que produisent les animaux. Le lait, les œufs, par exemple, ne font pas partie du mode alimentaire des véganes. Mais c'est aussi un mode de vie fait d'interdits vestimentaires. Plus de laine, puisqu'elle est prélevée sur les animaux. Plus de soie, plus de cuir, évidemment, plus de fourrure. Fait de fourrure, de fourrures animales. Fait de considération sur l'origine et la fabrication des médicaments, des produits de beauté, parce que souvent, ils ont impliqué des tests sur les animaux. Également, on supprime un certain nombre d'activités de loisirs. Plus de chasse, bien évidemment. Plus de corrida, dois-je le dire. Plus de cirque.
Ici, faut
le préciser. Plus de zoos. Plus de déplacements à dos d'animal. Et par exemple, donc à dos de dromadaire, mais ici, il n'est pas la peine de le préciser, mais même les chevaux, il ne faut plus dresser les animaux pour les monter. Par extension, évidemment, les matériaux, les objets de décoration ou d'ameublement de nos maisons peuvent être concernés par ces interdits. Donc, il s'agit bien d'un mode de vie total qui n'a plus rien à voir avec le végétarisme. Et ce style de vie veut donc supprimer la souffrance animale et prône un respect total des animaux. Et ce véganisme, quand même, quand vous écoutez les témoignages des véganes, je n'ai pas trop le temps d'en lire, mais il est de l'ordre de la conversion quand même. On se convertit et on emprunte un chemin où peu à peu on va abandonner tous ces produits qui ont, paraît-il, tous suscité, causé la souffrance des animaux. Lien de respect total avec l'animal, oui, c'est vraiment un pas-touche. Est-ce que c'est encore un lien ? La question se pose, puisque précisément il s'agit de rendre sa vie indépendante de la source animale et rendre les animaux aussi indépendants de l'emprise humaine et particulièrement du dressage, pour ne pas parler du lien alimentaire, bon ça c'est plus traditionnel. Alors, le véganisme, je passe au deuxième point de ma deuxième partie. Le fondement du véganisme, bien sûr, c'est ce que j'en ai dit de son fondateur, mais c'est plus largement, au point de vue philosophique, c'est l'antispécisme. L'antispécisme est le nom que porte l'idéologie qui a donné naissance au mode de vie végan. Il se situe au carrefour de la philosophie, de l'anthropologie, des sciences dites de la nature, dit Aria Nicola, pages 16 et 17. Alors, quel est le fondement philosophique de l'antispécisme. L'antispécisme est représenté tout spécialement par un penseur australien qui s'appelle Peter Singer, comme la machine à coudre. Peter Singer. Bon, donc, c'est un penseur australien actuel, je n'ai pas cherché ses dates, mais enfin, il est en activité. Et lui-même, sur quoi se fonde-t-il? Eh bien, il se fonde sur le courant de philosophie qu'est l'utilitarisme. Donc, premier point, l'utilitarisme, qui est une philosophie élaborée par Jeremy Bentham, 1748-1832, pour lequel le critère de jugement de toute chose doit être l'utilité. Bon, donc là, c'est simple. De sorte que toute action ou fonction soit évaluée en fonction de ce critère, qui est à la fois empirique, il correspond à l'expérience de chacun, et en même temps normatif. Il détermine ce qui est de notre intérêt, de notre utilité, et du même coup, de ce qui est notre devoir. Bon, entre parenthèses, qu'expérience, intérêt et droit soient ainsi confondus, pose une question philosophique tout à fait essentielle, mais je ne la traite pas. Alors, quel est le principe utile que nous avons à mettre en toute chose, en tout comportement, hein, que ce soit un comportement spontané ou que ce soit un comportement de droit ou de devoir? Eh bien, je le cite dans « Introduction au principe de la morale et de la législation », 1789, Bentham écrit « La nature a placé l'humanité sous la gouverne de deux maîtres souverains, le plaisir et la douleur. C'est à eux et à eux seuls de nous indiquer ce que nous devons faire comme de déterminer ce que nous allons faire. » Bon, ben voilà. Bentham aimait l'idée d'inclure les bêtes dans le grand calcul utilitariste, car Bentham élabore une philosophie, vous en souvenez peut-être, hédoniste, fondée donc sur le plaisir, mais qui exige une arithmétique des plaisirs et des peines, afin de viser le plus grand bonheur du plus grand nombre. C'est le projet politique de Bentham, mais c'est un projet quantitatif, hein, le plus grand nombre de plaisirs pour faire le plus grand bonheur du plus grand nombre d'êtres humains. Mais il indique donc qu'on pourrait intégrer les animaux, hein, donc on est en 1789. Et alors, dans un bas de page de son ouvrage, eh bien, Introduction au principe de la morale et de la législation, il écrit « Il est possible qu'on reconnaisse un jour que le nombre de gens, la pilosité de la peau, la terminaison de l'os sacrum sont des raisons insuffisantes d'abandonner un être sensible au même destin que qui ? Que les esclaves. » Quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être la faculté de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte est, au-delà de toute comparaison, un animal plus raisonnable, mais aussi plus susceptible de relations sociales qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Supposons que la situation était différente, qu'en résulterait-il? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» 1789, bon, on est bien sûr à la Révolution française, mais notre auteur anglais n'est pas concerné, mais il est concerné par la philosophie des Lumières, et Bentham tourne le dos à la philosophie des Lumières, c'est-à-dire à une valorisation de la raison, pour, au contraire, la remplacer par le plaisir et la douleur. Et donc, évidemment, Peter Singer va reprendre ce critère et va en faire le fondement de toute sa pensée, à savoir, il faut lutter contre la souffrance animale. Il faut lutter contre la souffrance animale. Et par conséquent, puisque les hommes et les animaux éprouvent plaisir et douleur, je le cite, ils méritent une égale considération. Voilà. Et bon, tout est dit, hein, là. Je pourrais m'arrêter. Ils méritent une égale considération. Bon. Alors, venons-en maintenant à, je reste dans ce deuxième point, à ce qu'est l'antispécisme. Alors, antispécisme, il faut commencer par spécisme. Spécisme, c'est un mot qui est construit comme les mots racisme et sexisme. Voilà. Donc, il fait écho au terme racisme et sexisme. Je cite Ariane Nicolas. Les animaux seraient victimes de discrimination et d'oppression au même titre que les Noirs ou les femmes en leur temps, lorsque leurs droits n'étaient pas pleinement reconnus constitutionnellement. Et Peter Singer écrit dans La Libération animale : les racistes violent le principe d'égalité. En donnant plus de poids aux intérêts des membres de leur propre race lorsqu'il y a conflit entre les intérêts et ceux d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en favorisant les intérêts de leur propre sexe. De même, les spécistes font primer les intérêts de leur propre espèce sur les intérêts plus grands des membres des autres espèces. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, cela veut dire qu'on est spéciste, comme on est raciste ou sexiste, en croyant qu'il y a une inégalité entre l'homme et l'animal. C'est ça le spécisme. Et à partir du moment où vous croyez qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, eh bien, vous allez mépriser les animaux comme le raciste, croyant qu'il y a une inégalité entre les races, méprise les autres races et valorise la sienne, du moins, évidemment, lorsqu'il y a conflit d'intérêts, comme le dit la citation. Bon, alors, il y a déjà toute une question. Est-ce que dire qu'il y a une différence de nature entre l'homme et l'animal, c'est forcément maltraiter les animaux, les mépriser ? Alors, évidemment, on dira que les faits parlent d'eux-mêmes, puisque on est bien obligé de constater la souffrance animale, les mauvais traitements qu'on fait subir aux animaux. Mais n'y a-t-il que cela dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la relation de l'homme à l'animal depuis des millénaires ? Ben voilà, c'est la question qui se pose. Bien, alors, donc, l'antispécisme, eh bien, refuse cette distinction et prône une égalité. Égalité de l'homme et de l'animal. Ils ont mêmes conditions, ils ont les mêmes intérêts, vivre dans le plaisir et fuir la douleur. Bon, et cela, alors, disons-le tout de suite, les distingue, les animaux, les hommes, dans un même ensemble, sont radicalement distingués de la matière végétale, des végétaux, et de la matière inerte. Donc, pas de considération sur les arbres. Peter Singer écrit « La libération animale » dont j'ai tiré les citations en 1975, donc vous voyez, c'était déjà ancien. Et à ce moment-là, pas de considération du tout des végétaux qui sont dénués de sensibilité, pour lesquels on ne peut pas parler du critère de plaisir et de souffrance, et encore moins de considération pour la matière inerte, si vous voulez, les pierres du chemin. Qui pourrait pourtant crier Dieu, mais enfin, les pierres du chemin, les montagnes, la rivière, etc., non. La frontière est très nettement établie et elle, par contre, permet d'englober les animaux et les hommes dans un même ensemble. Alors, je termine ce point en disant l'antispécisme est une théorie et un mouvement militant. Qui s'appuie sur la dénonciation du traitement réservé aux animaux, particulièrement dans certaines formes de l'élevage et de l'abattage industriel. Bon, je n'y reviens pas. Il se sert également des travaux scientifiques sur le comportement animal à travers l'éthologie, ce qu'on peut induire de la vie mentale des animaux qui apparaissent désormais comme des sujets ayant une conscience, une intériorité et donc qui sont possiblement des sujets de droit. Alors vous savez, là on soulève des questions philosophiques qui demanderaient un traitement à part et long. Ce mouvement, enfin, se sert des réseaux sociaux, ah oui, pour s'afficher et se réclamer du virtue signaling, des comportements vertueux ostentatoires. Par exemple, le vegan 2.0 renvoie l'image d'une personne saine d'esprit et de corps, soucieuse de l'environnement et en pleine possession de ses moyens. Elle se présente donc comme un modèle à suivre. Alors, quels sont, troisième point, le plus important, les solutions diverses de l'antispécisme. Bon, alors, on se comporte comment vis-à-vis des animaux, hein? Alors, il y a trois façons, actuellement, si vous voulez, trois façons essentielles de se comporter par rapport aux animaux si on est dans ce courant antispéciste. Alors, il y a la façon propre à Peter Singer qui publie en 1975 La libération animale. Il s'agit de libérer les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire libérer les animaux? Eh bien, on relâche les animaux dans la nature. On cesse d'avoir des espèces d'animaux élevés par l'homme, des animaux domestiques. Il s'agit vraiment de libérer les animaux. Libérer les animaux en considération de quatre droits fondamentaux qu'ont les animaux: ne pas être tués, ne pas être exploités, ne pas être enfermés, ne pas souffrir. Bon, donc, ouvrez la cage aux oiseaux. Bon, mais c'est ça, hein, c'est fondamentalement cela. Ne pas être tué, ne pas être exploité, ne pas être enfermé. Alors, il ne reste plus qu'en effet à les libérer. À les libérer, car... au fond, il y a une égalité de l'homme et de l'animal, je n'ai cessé de le répéter. Mais cette égalité de l'homme et de l'animal est-elle une égalité des espèces? Bon, on ne va pas dire que l'homme sapiens est égal de la fourmi ailée. Hein, bon, on ne peut pas le dire. Donc, Peter Singer contourne la difficulté dans cet esprit utilitariste qui vient du XVIIIe siècle, en parlant non plus d'espèces, mais d'individus. Au nom de l'expérience et du vécu, alors on est en plein empirisme anglais, eh bien il s'agit de voir chaque situation à part. Évidemment, il ne s'agit plus de parler de principes généraux et universels avec cette philosophie rationaliste et Kant et tout ça, les hommes, ceci, les hommes, cela, mais dans chaque situation concrète, comment on considère l'homme, comment on considère l'animal. Et donc, il écrit dans Questions d'éthique pratique, en 1997, « Prendre la vie de personne est en soi plus grave que de prendre la vie de non-personne. Il semble donc, par exemple, que tuer un chimpanzé est pire que tuer un être humain qui, du fait d'un handicap mental congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne. » Alors, évidemment, hein, la citation a fait quand même un certain bruit. Alors, je ne peux pas, dans le cadre de notre réflexion, réfléchir sur « devient-on une personne ?» ou « l'est-on ?» justement, par nature. Hein. Mais, évidemment, il est dans une situation concrète entre un enfant handicapé et un chimpanzé, qui c'est qui va souffrir le plus dans sa vie, donc qui c'est qui mérite le moins de vivre parce que sa vie est pourrie, eh bien, c'est l'enfant handicapé. Et qui c'est qui mérite de vivre le plus parce qu'il aura vraiment une vie heureuse, faite de plaisir, eh bien, c'est clair, c'est le chimpanzé. Bon, après, je passerai la parole en conclusion au pape, alors on ne pourra pas lui couper la parole. Hein. Alors, deuxième courant, ne me retardez pas, deuxième courant de pensée à l'intérieur donc de ces mouvements, l'extinctionnisme. Alors, Peter Singer parlait de libérer les animaux, hein, on cesse la domestication des animaux. L'extinctionnisme prône la suppression pure et simple des espèces domestiquées et ou des espèces, je cite, dont les spécimens ressentiraient davantage de douleur qu'ils n'éprouvent de plaisir. Je ne sais pas combien d'entre nous survivent à cela. Hein, mais, voilà. Asher Soril écrit « L'extinctionnisme offre la meilleure solution théorique au problème de la souffrance animale. » En effet, pourvu que ça ne soit qu'une solution théorique. Décembre 2017, dans un blog, bon, je passe la référence. Troisième, alors l'extinctionnisme. Bon, on n'entend pas trop parler parce que, évidemment, c'est énorme, hein, mais il faudrait supprimer. Alors, la libération animale et l'extinctionnisme, comment font-ils ? Ils ne tuent pas, mais par exemple, ils empêchent la reproduction des animaux. Hein, voilà, déjà cela. Des animaux domestiques, par exemple. Il faudrait en empêcher la reproduction. Et puis, vous avez un troisième courant dont vous avez entendu parler. Hein, par exemple, publié dans la Zoopolis en 2011, en français Zoopolis 2016, par Sue Donaldson et Will Kimlicka, qui sont des penseurs canadiens, et qui, eux, au contraire, veulent doter les espèces animales de droits, hein, et les faire participer à notre vie politique, à nos institutions, hein, en leur donnant donc des droits et en les représentant. Alors, il s'agit de créer une égalité. Alors, ça ne veut pas dire que les poulpes auront le droit de vote, mais enfin, il s'agit de créer une société mixte, dans laquelle les animaux auront des droits suivant que ce sont des animaux domestiques, liminaires ou sauvages. Hein. Certes, il y a des droits qui sont reconnus, je passe cela, et j'ai terminé ce point. Donc il y a trois modèles de l'antispécisme. La libération animale, l'extinctionnisme et au contraire la dotation de droits attribués aux animaux, un régime de citoyenneté différencié en fonction de leur statut. Alors, critique de l'antispécisme. Bon, c'est vrai que l'antispécisme nous paraît énorme, quoi. Hein, c'est vrai. Je voudrais souligner le lien anthropomorphique, hein, qui marche à fond. Bien que Peter Singer dise qu'il ne se sert que de la raison dans sa réflexion, il y est toujours question de faire appel aux sentiments. Le pauvre chimpanzé, le pauvre enfant handicapé, mais non, il vaudrait mieux pour lui de ne pas vivre, etc., etc. Et donc, vous avez une perméabilité à ce discours qui est très grande dans notre société. Parce qu'en effet, la souffrance est devenue une sorte de repoussoir. Il ne faut pas souffrir. Hein. Peut-être que c'est un lointain relan du christianisme aussi, mais la souffrance est condamnable. Bon, et le problème anthropomorphique, là, c'est que comment juger de la souffrance, de l'égalité de la souffrance de l'homme et de l'animal, hein, c'est quand même... l'animal souffre comme nous, autant que nous. Ah, déjà, comment penser cela, hein, comment le penser ? Alors c'est très gentil de le dire, mais au niveau de la pensée, quelle est la preuve là, hein? Est-ce qu'on n'est pas en plein anthropomorphisme qui est tout le temps encouragé? Dans l'anthropomorphisme, je dénoncerai également le fait que c'est parce qu'on a attiré l'animal vers soi, vers l'homme, qu'on le considère en lui-même de façon un petit peu isolée, qu'on peut dire « ah oui, il souffre, ah, il a du plaisir, ah », et puis on trouve toutes les ressemblances possibles et imaginables avec l'homme. Alors, il n'y a qu'à voir les documentaires animaliers. Mais au fond, la grande exigence scientifique, c'est d'étudier l'animal dans son milieu. Et de voir comment il façonne son milieu, comment il est façonné par son milieu, comment tout est lié dans une interdépendance avec un milieu, et non pas isoler le chimpanzé, isoler des expériences, essayer de le faire parler, bref, être dans une relation de contamination homme-animal, si je puis dire, l'expression n'est pas heureuse en ces jours, mais au fond, qui méprise cette spécificité de l'animal que d'être créateur d'un umwelt, hein, d'un environnement dans lequel il faut le replacer pour le connaître en vérité. Bien. Une idéologie, il faut absolument que je dise ça, une idéologie paradoxale sur la considération et la déconsidération des hommes. Alors, d'une part, vous avez toute la création de ce que Orwell a appelé une « novlangue ». Par exemple, tuer un animal devient un meurtre alimentaire, un meurtre, il faut oser le dire. Inséminer un animal, c'est un viol. Systématiquement, vous trouvez depuis que Patterson, en 2002, a employé l'expression, une comparaison de l'élevage des animaux et des camps de la mort ou des camps de concentration et de l'abattage des animaux avec l'extermination des juifs, par exemple. Et ainsi, Charles Patterson, en 2002, parle de l'abattage industriel des animaux qui représente, je le cite, « un éternel Treblinka ». Alors, Elisabeth de Fontenay, avec ses racines juives, dira « oui, je comprends l'expression, mais je ne la reprends pas ». Enfin, il faut oser quand même la reprendre. Bon, les nazis ne faisaient pas naître des enfants, n'en prenaient pas soin, certes, mais les omnivores ne veulent pas exterminer les animaux, ils ne les haïssent pas. Alors il y a des comparaisons comme ça, sur lesquelles, des comparaisons, bon celle-là est énorme, mais parler de meurtre alimentaire, il faut être tout à fait vigilant. Hein, quel langage emploie-t-on, hein? Alors, la déconsidération des hommes, ou considération, ai-je dit, pourquoi? Parce que, d'une part, on affirme l'égalité de l'homme et de l'animal, et d'autre part, il n'y a que l'homme qui est capable d'assumer la responsabilité qu'il a dans son rapport aux animaux, et même dans sa libération des animaux, ou dans sa participation des animaux à la citoyenneté. Et par conséquent, vous avez une sorte de contradiction. D'une part, l'homme est rabaissé, et d'autre part, il est complètement surélevé, puisqu'il prend en charge vraiment le traitement et le sort des animaux. Donc, il y a une contradiction. L'antispécisme se veut un anti-humanisme, mais on peut se demander si ce n'est pas un hyper-humanisme, d'une certaine façon. L'homme antispéciste, un homme en rupture d'humanité, je dirais très vite, par exemple, cette militante végane qui dit « Je suis triste d'embarquer dans cette vie où la violence fait tellement partie de mon espèce. Je suis triste de faire part de cette espèce. » Et Émeric Caron, qui a été fondé en 2018 le premier parti politique antispéciste français, a écrit « L'existence de chacun de nous relève de la pure anomalie. » Alors, donc, il y a quand même non seulement une déconsidération ambiguë de l'homme, mais je crois qu'il y a au fond de ces courants de pensée, et on le trouve beaucoup dans le véganisme, il y a un désespoir sur l'homme. Alors ça, ce désespoir sur l'homme, nous pouvons le critiquer, mais comment est-ce que nous-mêmes nous y répondons? Quel espoir portons-nous sur l'humanité? Car bien des penseurs antispécistes de bonne volonté, bien des militants véganes se sont détournés de la considération de la société de l'homme, parce que c'est perdu, ça, c'est perdu. Tous les combats sont perdus, l'inégalité ne cesse de croître entre les hommes, la planète est perdue, etc. Et donc, il ne reste plus qu'en quelque sorte à s'occuper de l'animal, à le sauver tel qu'il est, pur, et finalement à le laisser être dans une volonté qui est pratiquement sacrificielle. Je trouve qu'il y a beaucoup de religieux dans ces manières de faire. Alors, en conclusion, le pape dit que, dans le paragraphe 91 de Laudato Si, le pape François dit qu'on ne peut pas séparer le privilège attribué aux animaux et la question sociale. C'est incohérent. Le pape dénonce une incohérence dans l'amour pour les êtres naturels et l'indifférence pour les hommes. Deuxièmement, dans le paragraphe 92, il écrit « Tout est lié et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage entrelacé par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures. » Le père Prédiagne l'a dit. « Et qui nous unit aussi avec une tendre affection à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. » Et cette dimension de la réintroduction des éléments naturels dans la considération manque complètement à l'antispécisme, je crois que c'est clair. Le biocentrisme, dit troisièmement le pape, paragraphe 118, ne doit pas remplacer l'anthropocentrisme dévié. Mais, dit-il, il faut reconnaître et valoriser les capacités propres à l'homme. Et dans le paragraphe 159, j'ai terminé, il nous faut reconnaître, écrit le pape, ce qu'ont proclamé les évêques du Portugal, l'environnement se situe dans la logique de la réception. Il faut accueillir le monde comme un don gratuit et donc renouveler un lien avec une transcendance bonne, Dieu créateur, Dieu d'amour, créateur tout-puissant.
Homme et animal, quel lien ? Vous venez de suivre l'intervention de Marie-Thérèse Ourcastanier, professeure de philosophie et d'anthropologie. La création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes. Session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Eredax et de Bayonne. Vous pouvez retrouver toutes les interventions sur le site internet de l'antenne de théologie des Pays de la Dour, atpa-theologie.com.